Interview.
4 du Wa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Vincent N. Bonjour.
Bonjour Yves.
Et de Olivier Schlosser. Bonjour.
Bonjour Yves.
Tous deux, vous êtes présents pour nous parler des activités de Vercors Escapade qui vont avoir lieu cet été. Et pour ça, vous prévoyez une multitude de sorties, aussi des randonnées en montagne avec des dates précisées sur des affiches qui vont fleurir sur les murs.
Vercors Escapade, c'est une petite agence de voyage qui existe sur Die depuis un petit bout de temps maintenant. Où on organise en fait tout au long de l'année tout un ensemble de séjours. Et pendant l'été, on organise en particulier des sorties juste à la journée pour sensibiliser un petit peu les gens à la montagne qui est autour de nous, qui est avec toute la richesse de cette montagne. Donc voilà, on a un petit programme. Où globalement, toutes les semaines, on va reproduire ce même programme. Qui est surtout destiné évidemment aux gens qui viennent nous voir, qui viennent visiter Die, qui sont là au camping, en vacances ou autre, mais aussi aux gens du Diwa qui ont un petit peu plus de temps, aux grands-parents qui accueillent les petits-enfants et tout ça, quoi. Voilà.
Alors, les sorties nature prévues, ça commencerait assez rapidement, ce 14 juillet, avec les Trois Becs et la forêt de Saou. Alors, ça, ce sont des lieux un peu mythiques sur le Diwa, ou plutôt sur le Saillansonné, non?
Oui. On a toutes les semaines, en fait, on va organiser une grosse rando, donc qui est vraiment une rando montagne. Et on a essayé de trouver de mettre sur le papier tous les beaux spots qu'on a qui sont chers à notre cœur. Donc on a effectivement la première, c'est les Trois Becs au-dessus de Saoult, qui est la montagne au-dessus de Saillant. On a le Jocou au mois d'août, on a Pied Ferré au mois d'août aussi, le Grand Vémont le 21 juillet. Voilà, et tout ça, c'est des... Là, on est sur des randos qui sont un petit peu sportives, parce qu'à chaque fois, on a quand même des bonnes balades, c'est des randos à la journée, avec 6, 8 ou 1000 mètres de dénivelé. Et on essaye de vous faire découvrir ces beaux spots qui sont quasiment à chaque fois sur des sommets. Et on essaye de les prendre de la façon dont vous les avez peut-être jamais vus. Parce que c'est ça aussi, la richesse d'y aller avec un accompagnateur plutôt que d'y aller tout seul. C'est de sortir un peu des sentiers battus, de voir des petites variantes. Donc on a, par exemple, une rando qui met un peu cher, c'est la Croix du Lautaret et les vallons secrets de Combeau. Alors tout le monde connaît le vallon de Combeau, tout le monde a été se balader au vallon de Combeau dans le Diwa, mais moi je vous prends les paris qu'on a des choses à vous faire découvrir autour du vallon de Combeau classique et d'aller se faire des choses un petit peu hors sentier, en dehors des grosses autoroutes où il y a beaucoup de monde, quoi.
Tous deux, vous êtes accompagnateurs en montagne, une activité qui vous prend toute l'année, en quelque sorte. Bon, il y a des saisons où c'est peut-être moins évident, mais il y a quand même une demande toute l'année de ces promenades.
Alors, c'est bon, comme surtout des activités saisonnières, donc en été, en hiver. En hiver, donc dans la neige, en raquette. Pour ma part, je suis encore en formation, donc je suis pas encore complètement à 100% dans l'activité, mais il y a quand même pas mal de collègues qui ont plusieurs activités ou qui travaillent avec plusieurs agences. Voilà, donc on essaye de compléter. Mais il y a aussi des séjours qui partent quand même au printemps et à l'automne, mais effectivement c'est un petit peu plus restreint.
Moi, j'aime bien dire qu'on a une activité très très saisonnière, mais avec 5 ou 6 saisons dans l'année. On a la chance, dans le Diwa, d'être à la frontière entre la Provence et la montagne. Et quand on est au mois de mars, on peut faire quasiment dans la même journée une randonnée en raquette où on a de la neige jusqu'aux genoux. Et l'après-midi, aller faire une balade un petit peu plus au sud où on va aller, voir les fleurs qui commencent à sortir et tout ça. Donc il y a vraiment de l'activité tout au long de l'année.
Même se baigner peut-être ?
Alors on se baigne aussi toute l'année, mais ça c'est un, c'est un autre sujet. Mais ouais, c'est vrai qu'en été, particulièrement, on a à cœur d'essayer de profiter de la richesse, là pour le coup, de la vallée de la Drôme. On a une balade, par exemple, tous les mercredis, où on vous amène ce qu'on appelle une rando fraîcheur, avec un petit jeu de mots sur le rando, où on vous amène en fait découvrir une petite rivière, alors qui est pas la Drôme, parce que là aussi la Drôme c'est très fréquenté et quelque part vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un accompagnateur pour ça, mais on a une petite rivière qui est un affluent de la Drôme, où on vous amène découvrir ça, on vous l'amène pour voir un petit peu la richesse, la biodiversité de ce lieu. Et puis aussi parce que c'est un endroit qui est frais, c'est un endroit où on peut vraiment mettre les pieds dans l'eau, se rafraîchir. Et là, en ces temps de chaleur, c'est quand même chouette. Même si on l'a tous vu là, cette année, l'eau manque assez cruellement, mais je pense qu'il y en aura quand même pour jusqu'à la fin de l'été, au moins pour mettre les pieds dedans, quoi. Ouais.
Des sorties, il y en a. Elles sont, régulières en quelque sorte. Par exemple, Vallée de Combeau, vous parlez d'elle, de lui plutôt. Et c'est mardi toute la journée, ça c'est tous les mardis de l'été.
Oui, c'est ça. Donc on a trois thèmes sur les animaux, donc la marmotte, le vautour et le castor. Donc la marmotte c'est tous les mardis, le vautour c'est tous les vendredis. Et le castor, c'est tous les mardis soirs. Donc, ça se fait dans la soirée. Et voilà. Après, on a aussi deux randonnées dans la vallée de la Roanne qui sont spécialisées. Donc, un accompagnateur est spécialisé, donc Eddy, dans ces deux randonnées.
Évidemment aussi, ça se passe en altitude. On peut ressentir cette fraîcheur, justement.
Ouais, dès qu'on va monter sur la montagne, alors en général, il y a un petit peu moins d'arbres, donc on a plus de soleil. Donc souvent, la première impression, c'est que finalement, il fait plus chaud. Mais il y a tout de suite beaucoup plus de vent. Hein. Ici, en bas, on a moins d'air. Quand on va monter, on va toujours gagner un petit peu avec de l'air. Et ça, c'est important. C'est important aussi parce que quand on est à 10, le temps ne change pas très vite. Par contre, quand on est à l'altitude, c'est assez fréquent qu'on a un gros écart entre la ville de Die et puis le vallon de Combeau, par exemple, où on part, c'est un peu le plus haut de nos randonnées, là, comme ça. Donc ça, il faut faire attention de ne pas partir n'importe comment. Donc il faut toujours, on préconise quand même toujours d'avoir chacun un petit sac, même si c'est à la demi-journée, un petit sac avec un pull, parce qu'il peut faire un petit peu plus frais, ou quand on va aller se balader les pieds dans l'eau, comme on parlait tout à l'heure. Eh ben, l'eau, elle est fraîche, même en ce moment, et ça rafraîchit quand même. Quand on va voir les castors, les castors, ils se baladent dans l'eau, donc nous aussi, on va aller mettre les pieds dans l'eau. C'est le soir, à 6 heures, il ne fait pas encore très frais, mais à 7 heures, tout d'un coup, il y a l'air frais qui descend. Donc ça, on a très très vite des gros écarts de température, et c'est important de ne pas trop se laisser surprendre, quoi. Même si on n'est pas encore en hiver,
Je me souviens d'un spot... Après les Nonnières, il y a une continuité avec un barrage en allant dans cette combe. Et au bout, je me souviens d'un lieu rempli de mousse avec un bassin et une petite cascade qui tombe dedans. Ouais. Et en plein été, ici, il faisait peut-être 40 degrés. En étant là-bas, il faisait 15 ou 16 degrés. Et c'est vrai que ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Ça, c'est aussi un lieu agréable, des moments agréables à découvrir.
Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est, je pense que tu parles de la cascade du Sapé aux Nonnières. C'est des très beaux endroits. Et à partir du moment où on va monter en altitude, voilà, on a plus d'air. Et puis on a un effet thermique qui fait normalement la température baisse. Et puis on est souvent dans des vallées qui sont plus encastrées. Donc on a plus d'ombre. Et l'ombre, quand il y a beaucoup de soleil, c'est pas mal.
J'imagine qu'il doit y avoir une heure de soleil au plus dans la journée hein, qui passe dans ces endroits-là. Ces animations autour des oiseaux, de la marmotte, des castors, ça permet aussi aux touristes de prendre conscience ou peut-être aussi de faire découvrir ce lieu, ces animaux.
Ouais, c'est notre objectif. Hein, ce qu'on cherche, c'est sensibiliser les gens à la richesse qui est celle du Diwa ou du Vercors, où on a la chance d'avoir une faune extraordinaire. On a surtout orienté nos sorties vers la faune, pas tellement vers la flore, parce qu'en fait en été, il y a tout qui est un petit peu grillé. Il faudrait organiser des choses en mai-juin et là c'est pas tellement la période où il y a du tourisme. Donc on va vraiment avoir une approche environnementale. On va parler de biodiversité, on va parler d'écologie. J'allais dire dans le bon sens du terme. On va pas en parler en disant, en étant méchant et en tapant sur le bout des doigts des gens en disant faut fermer le robinet quand vous lavez les dents. Mais on va essayer de sensibiliser les gens dans l'espoir ou dans la conviction que quand on connaît quelque chose, on le protège mieux. Voilà. Et les marmottes, les vautours, les castors, ça c'est des éléments un petit peu emblématiques de notre région qui font sa richesse, mais qui sont sensibles. Et que voilà, on va essayer d'aller expliquer toute cette fragilité, cette sensibilité, pour que les gens soient un petit peu plus éveillés à tout ça et peut-être fermer l'eau du robinet quand ils se lavent les dents après en revenant chez eux. Ça c'est plus de notre sort.
Il y aura ce jeudi 21 juillet le Grand Vémont et la réserve des hauts plateaux du Vercors. Cela permettra, entre autres, de découvrir quels aspects de cet endroit.
C'est la réserve des hauts plateaux du Vercors. On pourra en parler pendant des heures. C'est un endroit qui est très très intéressant par sa faune, par sa flore. Mais aussi simplement par l'outil administratif que ça représente, c'est-à-dire de dire, voilà, à un endroit, on délimite une réserve et on décide d'un commun accord ou par d'un arrêté un petit peu pas arbitraire, mais qui s'impose un petit peu à nous, on va décider de protéger cet endroit-là. Ça va devenir un laboratoire. Hein, donc dans la réserve des hauts plateaux du Vercors, c'est l'endroit où il y a pu y avoir réintroduction des vautours. On fait des essais, on essaye, on voit, ça marche, ça marche pas. Là, cette année, on a eu la chance d'avoir pour la première fois une ponte d'un gypaète barbu. Donc voilà, les gypaètes, ils ont été réintroduits. Il y a plusieurs tentatives de réintroduction ces dernières années. Là, on a quelque part, ça marche. On voit le gypaète qui continue à bien s'installer, et tellement bien que finalement, il a trouvé une copine ou la copine a trouvé un copain. Je ne sais pas dans quel sens ça se passe exactement chez eux. Et y a nidification et il y a ponte. Donc ça, c'est des super éléments. Et après, on a aussi la réserve des hauts plateaux du Vercors. Il faut savoir que c'est la plus grande réserve terrestre en France métropolitaine. Alors, on a des réserves marines qui sont évidemment sur des surfaces plus importantes. Puis, on a en Guyane, on a des réserves qui sont plus importantes. Mais ça veut dire qu'on a un espace qui fait carrément, quasiment, allez, 40 km en nord-sud, hein, qui part de Corançon, qui va jusqu'à Châtillon. Hein, Corançon en Vercors et Châtillon en Diois. Et qui fait à peu près une dizaine de kilomètres de large. Et sur tout cet espace-là, on décide qu'il n'y a aucune activité humaine. Donc, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de construction humaine. Alors, il y avait des constructions avant, on ne les a pas détruites pour autant. Hein. Et ça devient un endroit qu'on rend, entre guillemets, à la nature, à la biodiversité. Donc, on voit un nombre incroyable d'espèces se développer, aussi bien au niveau des petits habitants qui vont être les papillons, les insectes, les araignées, et tout ça, les oiseaux. Et puis la faune un petit peu plus grande. On a énormément de cervidés. Et comme il y a du cervidé, notre copain le loup est revenu assez naturellement parce qu'il y a à manger dans ces endroits-là. Donc on a vraiment une richesse qui est super importante. Donc quand on fait une randonnée sur la réserve des hauts plateaux du Vercors, c'est l'occasion de voir, alors en fonction des saisons, en fonction des opportunités, de voir toute cette richesse-là et de comprendre un petit peu l'étendue de cette superbe zone et superbe réserve qui nous est offerte là.
Olivier Chausser.
Oui, et j'aimerais juste rajouter qu'il y a quand même des activités humaines dans la réserve, notamment le pastoralisme. Il y a eu la fête de la transhumance et la transhumance il n'y a pas longtemps. Et il y a un peu de chasse aussi quand même, réglementé, mais enfin comme partout, mais voilà. Donc il n'y a effectivement pas de construction d'axes routiers, mais on en parle aussi quand même beaucoup avec avec nos clients de la cohabitation entre le pastoralisme, les randonneurs et puis les chasseurs. Qui sont quand même pas très présents sur la réserve, mais c'est possible aussi de les rencontrer.
D'ailleurs, en parlant de chasse, on parle de cette remarque faite le président national des chasseurs, qui disait que pour ceux qui voulaient aller se promener, ils n'avaient qu'à le faire chez eux. Est-ce que c'est un petit peu, est-ce que c'est du... Mince, est-ce qu'on peut prendre ça comme du dédain, quelque part ?
Moi, je suis pas sûr que ce soit notre rôle de discuter de la pertinence ou pas des propos de M. Schrein. Mais par contre, ce qui est important, je trouve, c'est de voir... Alors, la réserve des Hauts Plateaux du Vercors, elle n'est pas intégralement sur... C'est une réserve nationale qui n'est pas sur un territoire de l'État.
Juste, c'est une réserve nationale
C'est une réserve nationale, oui.
D'accord, parce que ça n'a rien à voir avec le parc régional du Vercors.
Alors, on peut faire une petite parenthèse. Hein. Il faut voir, en fait, plusieurs niveaux qui s'imbriquent. On a le massif géographique du Vercors, ça, c'est une montagne. Et le massif, il a une certaine homogénéité. Il comprend les deux départements de l'Isère et de la Drôme. Autour de ce massif-là, il y a eu une volonté de monter ce qu'on appelle un parc régional. Le parc régional, c'est en fait un regroupement entre l'ensemble des communes qui ont un certain nombre de critères. Donc, ils sont que sur la rive droite de la Drôme, etc. etc. Enfin, et ces communes-là se mettent d'accord sur une charte disant on va aller vers quelque chose qui est naturel. Donc on va faire un tourisme qui est un petit peu plus écologique que juste du sport automobile, par exemple, et des choses comme ça. Mais quelque part, chacun reste maître chez soi, chaque commune reste maître chez elle. On est juste sur une entente entre des communes. Alors, c'est juste, le juste étant déjà beaucoup. Hein. Voilà, et après, il y a quelques moyens qui sont mis de façon centralisée pour promouvoir le tourisme, un tourisme vert et ces choses-là. Et après, à l'intérieur de ce parc naturel régional, il y a cet outil très particulier qui est la réserve nationale, donc qui est pilotée par l'État, et qui va s'imposer et qui, elle, a un rôle réglementaire assez fort. C'est-à-dire que sur la réserve nationale, il y a une réglementation particulière. Prendre un exemple, on n'a pas le droit de survoler la réserve à moins de 300 ou 500 mètres, je ne sais plus, 300 mètres. On n'a pas le droit de faire du vélo. Sauf sur un itinéraire qui a été identifié comme pertinent. Voilà. Et on a des gardes. Les gardes de la réserve sont des agents qui sont assermentés et qui ont un pouvoir de police. C'est-à-dire que si vous cueillez une fleur ici, c'est pas grave. Si vous cueillez une fleur sur les hauts plateaux, c'est un petit peu plus grave d'un point de vue écologique, parce qu'en général, on est sur une flore qui est un petit peu plus fragile. Et vous pouvez être verbalisé, parce que vous n'avez pas le droit de cueillir des fleurs à cet endroit-là. Et donc, il y a des gardes qui sont là. Alors, ils ne sont pas là que pour verbaliser, ils sont là aussi pour éduquer, pour expliquer un petit peu la richesse, hein, en collaboration avec des accompagnateurs ou autres. Ils sont là aussi dans un rôle scientifique. Donc, toutes les réintroductions d'espèces sont très souvent pilotées par la réserve et ces choses-là, quoi.
D'ailleurs, il y a des préparatifs avec justement ces forces de police, hein, entre guillemets, et vous-même avec l'organisation de ces randonnées ou de ces promenades. Est-ce que vous opérez justement ce côté un peu pédagogique aussi ?
Oui, on est complètement sur la même longueur d'onde avec eux. Hein. C'est-à-dire que il s'agit d'aller expliquer alors les outils administratifs de réserve, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, et surtout ce qui est plus intéressant, hein, on va être honnête, on va essayer d'expliquer, de faire comprendre toute cette richesse, comment est-ce que la nature elle fonctionne, comment est-ce qu'elle fonctionne bien ou pas bien, où est-ce qu'elle a ses faiblesses ou au contraire où est-ce qu'elle a ses forces. Et là-dessus, on est très très complémentaires avec les gardes. Les gardes, De mémoire, ils sont 6 ou 7 sur l'ensemble du territoire, hein, c'est-à-dire, encore une fois, de Corançon en Vercors jusqu'à Châtillon. Donc, ils ne sont pas très nombreux. Hein. Donc là, vraiment, ils ont, on prend le relais sur la partie pédagogique, quoi.
Oui, et puis juste pour compléter, et quand on a la chance de les croiser sur le terrain, bah, ils nous font le cadeau d'une petite prestation gratuite pédagogique, par exemple quand on est avec des scolaires sur l'espace naturel sensible de Fondurel. Ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps.
Vous organisez en parallèle de cette saison des activités scolaires en quelque sorte, c'est ça ?
Ah oui, on travaille effectivement avec le public scolaire aussi pendant toute la période de septembre à juin. Enfin, pas forcément tous les mois, hein, mais voilà, c'est possible de septembre à juin, en effet.
Alors, ces promenades, elles permettent aussi de découvrir des endroits, comment dire, des bijoux de la nature. On peut citer le Pied Ferré et la tour du Roc d'Embanne. Pour vous, ça représente quoi ?
Ah, c'est le plus bel endroit au monde. Non, c'est des voilà, comme je disais tout à l'heure, on essaye de sortir un petit peu des sentiers battus. Le Pied Ferré, tout le monde connaît, c'est le sommet du Glandas. Enfin, tout le monde connaît, c'est-à-dire que quand on est à Die, on lève les yeux, on voit les falaises du Glandas et tout en haut, on voit un espèce de truc un peu plat, c'est Pied Ferré. Et le Roc d'Embanne, en fait, c'est la partie plus falaise, plus rocher, qui est plus visible entre Die et Châtillon. C'est ces espèces de grandes falaises bien, bien verticales. Et l'idée, justement, c'est d'aller voir cette partie un petit peu assez impressionnante, quand même, et par un itinéraire qui n'existe pas sur la carte. Alors, quand on est du côté de Châtillon... Il y a le GR qui monte directement sur le plateau de au-dessus de Châtillon, et puis il y a des petits chemins. Alors il y a des petits chemins de chasseurs qui sont un petit peu à débroussailler, et puis il y a le chemin des gens de Châtillon, comme on l'appelle, donc qui est quand même assez fréquenté, mais qui est pas sur la carte. Voilà, donc on fait le tour par là et on redescend du côté de l'abbaye de Valcroissant. Ça fait une belle boucle et on parcourt on fait le tour de cette falaise du Roc d'Embanne qui est très découpée, qui est très 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 esthétique, qui est pas une randonnée dangereuse où on est dans des choses un peu vertigineuses, mais qui est une randonnée qui est très impressionnante parce qu'on va être au pied des falaises à un moment et puis à un autre moment on va être au-dessus et on va vraiment faire le tour de tout ça. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très esthétiques, quoi.
Ouais. Ces hauteurs de falaises situées justement sous le Pied Ferré, c'est quelle hauteur ? D'ici, on ne peut pas imaginer précisément, vaguement, la hauteur de ces falaises rocheuses.
On a entre 3 et 500 mètres d'altitude de falaises. Alors, qui sont rarement d'un seul tenant, d'un seul pan, mais c'est à peu près ça. C'est ce qui fait notre caractéristique, hein. Ça correspond à un étage géologique qui est un petit peu particulier, qui s'appelle l'étage urgonien. Alors, je parle sous couvert de tous les géologues qui nous écoutent, qui vont peut-être dire que je dis des choses pas super précises. Mais grosso modo, c'est une époque en fait, de sédimentation au fond de la mer qui était particulièrement calme et où du coup, il y a eu une grosse couche assez épaisse qui fait ces belles falaises. Alors ça fait le bonheur évidemment de tous les grimpeurs qui ont plein de grandes voies à faire du côté du Glandas ou du côté d'Archiane, mais ça fait aussi la richesse pour la faune qui va pouvoir aller se cacher, se protéger finalement avec ces falaises. Donc on a beaucoup de chamois dans ces endroits-là, on a un petit peu de bouquetin aussi, et puis pour nous qui randonnons, bah, c'est des endroits qui sont merveilleux parce que du coup on a un panorama qui est formidable, et c'est justement dans ces falaises là que les vautours vont pouvoir aller nicher, hein. C'est-à-dire que c'est des falaises avec des espèces d'infractuosité où les vautours vont pouvoir aller installer leur nid, et ils vont pouvoir profiter en fait de la super exposition. Donc la falaise, ils sont généralement exposés au sud, hein, ou assez majoritairement exposés au sud, surtout du côté d'Archiane. Du coup, le soleil chauffe très rapidement sur ces falaises. Elles chauffent et on va avoir des courants ascendants qui vont faciliter en fait l'envol. Alors des oisillons évidemment quand ils sont mûrs pour s'envoler, mais même des adultes. C'est-à-dire que un adulte vautour, il faut voir que c'est quand même un gros animal hein, qui fait un petit peu moins de 3 mètres, mais ça fait quand même déjà une belle envergure, bah ça, pour s'envoler, c'est quand même mieux d'avoir un courant d'air chaud qui vous pousse vers le haut plutôt que de devoir décoller d'une piste d'atterrissage au fond de la vallée, quoi.
Olivier Schlosser, qu'est-ce qui vous a amené à être guide de montagne ou, comment dire, accompagnateur en montagne?
Voilà, c'est le terme exact. Eh bien, forcément, l'amour de la montagne, mais aussi, j'aime bien partager, échanger avec les gens. Ça fait déjà de nombreuses années que je pratique à titre bénévole au club alpin et dans d'autres activités comme le ski de randonnée. Et voilà, ce qui m'attire, c'est l'amour de ce milieu qu'on qualifie de sauvage parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais il n'y a surtout pas beaucoup d'habitations. Donc c'est ce qui me plaît. Et puis de le partager avec d'autres personnes qui viennent d'autres milieux, qui peuvent aussi m'apporter d'autres choses auxquelles je n'ai pas accès. Et c'est cet échange-là qui est très riche pour moi.
Tu disais être encore en fin de formation, en quelque sorte. Une formation qui se développe sur quelle période?
Alors, c'est une formation qui est en 5 modules et qu'on arrive à faire en général à peu près en 2 ans. Donc, il y a un examen probatoire pour rentrer en formation qui permet de tester nos capacités physiques d'orientation et d'agilité aussi. Et ensuite, on a 5 formations donc, sur des thèmes différents, comme la pédagogie, le milieu enneigé, l'entraînement physique. Et voilà. Puis après, l'accompagnement de différents types de publics, les scolaires, les personnes âgées. Il y a les personnes à mobilité réduite. Et puis la sécurité, évidemment. Bon, on a tout un volet de la formation qui est sur la sécurité. Et donc, avec un examen final, donc chaque formation a un petit module de validation et un examen final qui comprend ensuite un rapport d'expérience et un projet professionnel.
Et surtout, il y a une grosse partie d'apprentissage qui est sur le terrain, en fait, hein, parce que les cinq modules de formation, ça représente 10 semaines de formation. Donc 10 semaines de formation sur 2 ans, on voit bien que la partie terrain est très très importante. Donc c'est à la fois une partie d'apprentissage en situation professionnelle, c'est-à-dire que Olivier, par exemple, ou d'autres stagiaires qui viennent nous rejoindre, se retrouvent en encadrement. Hein, ils ont toutes les capacités, mais ils vont continuer à apprendre au contact des publics, tout un ensemble de choses. Et surtout, c'est en partant tout seul, en suivant d'autres professionnels, en partant tout seul, j'entends, en se levant le matin et puis en allant avec son livre sur les fleurs ou son livre sur les chamois, apprendre vraiment comment ça se passe sur mon territoire, comment est-ce que ça se passe. Ça, c'est des apprentissages qui se font vraiment sur le terrain, qui ne peuvent pas se faire en salle, quoi. Comment se comportent les chamois lors du rut en automne, comment est-ce que volent les vautours. Ça, c'est des choses qu'on apprend sur le terrain en se baladant, en apprenant, en rencontrant des professionnels. On parlait des gardes tout à l'heure. Il y a effectivement les gardes, mais il y a aussi plein d'associations naturalistes. On a la LPO sur Dix qui est très active avec laquelle on peut apprendre énormément de choses. Et puis, pour devenir acteur après, quoi. Voilà.
Et vous-même leur apprenez parfois des choses aussi?
Ah, ça dépend desquelles.
Parce que au niveau des observations, par exemple?
Voilà, ouais. Alors on va surtout devenir collègues pour faire remonter des informations ensemble. C'est-à-dire que nous, on a l'avantage, c'est qu'on est très présent sur le terrain. Hein. C'est-à-dire qu'on est là en été, on est quasiment tous les jours dehors. Donc on va avoir une capacité d'observation qui est assez importante. Par contre, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous, on est comme des généralistes. Et quelque part, on va avoir des bénévoles à la LPO ou dans d'autres associations qui sont des très très grands spécialistes et à qui il faut rendre hommage. Donc nous, on va être capable de faire remonter des informations, de dire ah tiens, à tel endroit j'ai vu telle espèce, sans forcément être de grands grands spécialistes. Même si après les accompagnateurs, on a tous nos spécificités et certains d'entre nous deviennent des spécialistes sur des thématiques particulières, quoi. Ouais.
Tout à l'heure, vous parliez d'un chemin qui partait de Châtillon, montait jusqu'au plateau. Vous l'indiquez sous quel nom ?
Moi, j'appelle ça le chemin des gens de Châtillon.
Voilà, le chemin des gens de Châtillon. C'est un vestige qui existe depuis... qui est ancestral.
Alors, il faut comprendre que la montagne, en fait, on a du mal à se le représenter, mais elle est occupée, elle est utilisée, où il y a des humains qui s'y promènent depuis la préhistoire. Donc, c'est dur à se représenter parce que la préhistoire, déjà, c'est très très loin. Et puis que moi, je ne vois la montagne finalement qu'à l'échelle de ma petite vie. Et donc, du coup, depuis le Moyen-Âge, non, depuis la préhistoire, il y a des gens qui montent sur les hauts plateaux, qui montent à la montagne, soit pour y trouver du silex à la préhistoire, parce qu'il y avait une qualité de silex qui était importante, soit pour y trouver des pâturages où on va pouvoir faire paître des troupeaux. Donc ça, c'est des choses qui se passent depuis des millénaires. Et du coup, forcément, on a modelé, c'est-à-dire que l'être humain par ses déplacements, ont modelé la nature. C'est-à-dire que les hauts plateaux du Vercors, par exemple, s'il n'y avait pas eu l'homme, serait une grande forêt. Et en fait, l'homme, par le pastoralisme, en fait, a ouvert des espaces parce que quand on a des moutons, on a envie d'avoir de l'herbe. Donc, on a en fait fait une espèce de déforestation. On a ouvert ces espaces-là et on a permis finalement une énorme biodiversité différente. Parce que quand on a que de la forêt, on a que de la forêt. Quand on a de la forêt et des plaines, eh ben, on va avoir une mixité qui va ouvrir les choses. Et on a du coup. Donc on a ces espaces qui sont plus ouverts et on a énormément de petits sentiers. Alors on a des sentiers, quand on est vraiment sur la partie plateau, c'est assez plat et finalement les sentiers peuvent passer un peu n'importe où, ça va, ça vient. Par contre, sur toutes les parties montantes, là on a des sentiers qui sont plus marqués, qui sont des fois un petit peu cachés parce qu'ils sont tombés en désuétude, mais qu'on essaye de redécouvrir, qu'on essaye d'utiliser. Alors, de trouver toujours un équilibre, est-ce qu'il vaut mieux tous aller sur le même chemin et puis laisser la nature tranquille ailleurs, ou est-ce qu'il vaut mieux diversifier nos points de passage pour ne pas mettre trop de pression ? Il n'y a pas de bonne réponse ou il n'y a pas de mauvaise réponse, je ne sais pas.
C'était l'animal qui permettait aussi de transporter peut-être du Châtillon ou l'inverse. On parle de l'âne, hein, ouais. Justement, qui sera accompagnant pour le vallon de Combo. Il y a justement des promenades organisées avec les ânes, hein, il me semble.
Ouais. Ouais, tout à fait. L'âne, c'est aussi un compagnon historique de l'être humain qui est très adapté à la montagne. C'est... On a certains ânes qui sont impressionnants, quoi. Ils sont capables de monter sur des rochers. Ils ont vraiment le pied très très montagnard. Donc depuis effectivement très longtemps, il est utilisé pour transporter des charges, pour faire du commerce, pour amener des denrées dans le Trièves ou pour ramener des céréales du Trièves et ces choses-là. Donc on a énormément de sentiers qui sont faits des anciens sentiers muletiers qui sont nivelés, qui sont très très beaux et très agréables à prendre en randonnée. Et après, du coup, on organise, nous, on a un petit parc d'ânes. On a dans l'équipe de Vercors Escapades, on a quelques âniers, donc qui ont 2, 3, 4 ânes chacun. Et on organise... tout au long en fait de l'été, là ça a déjà commencé, des séjours qui sont accompagnés et on a les ânes qui nous permettent de transporter en fait tout notre matériel et d'aller dormir dans des endroits juste improbables. Ça c'est formidable. Pour les sorties qu'on organise cet été juste à la journée, justement au niveau du vallon de Combo, quand on va aller voir les marmottes, on va aller à la rencontre de ces petits animaux sympathiques, on va en profiter justement pour dire bah, allez, on va prendre un âne. Alors sur une journée, on n'a pas besoin de transporter beaucoup de matériel, mais c'est l'occasion de rencontrer cet animal à grandes oreilles, qui a souvent pas très bonne réputation. Et bon, souvent, en fait, c'est quand même parce qu'on ne connaît pas l'animal, parce qu'on ne comprend pas son mode de fonctionnement, qu'on se retrouve à dire « Oh là là, cet âne, il est vraiment têtu, quoi. » Un âne, il n'est pas têtu, il sait ce qu'il veut. Et une fois qu'on a compris comment il fonctionnait, une fois qu'on a réussi à avoir sa confiance, parce que c'est un animal qui va travailler, donc s'il n'a pas confiance en nous, il ne va pas accepter de travailler. C'est vraiment des super compagnons. Et on essaie, en une petite journée de temps, d'amener une petite connaissance de cet animal. Et en général, ça se passe bien, surtout avec les enfants. Quoi, ouais.
Vos sorties et randonnées sont organisées en général en journée ?
Alors on a ça dépend des moments. Par exemple, la rando fraîcheur, c'est vraiment une rando où on peut rien faire d'autre à ce moment-là parce qu'il fait trop chaud. Donc c'est une rando qu'on va faire l'après-midi et on va profiter de l'ombre qui est dans la petite forêt autour de la rivière qu'on appelle une ripisylve et où on va avoir les pieds dans l'eau. Donc ça c'est une rando qui est l'après-midi. On a la randonnée avec les vautours. Les vautours. Elle est un petit peu particulière cette randonnée parce qu'on va profiter en fait de l'installation qui est à Chamaloc, donc juste au-dessus de Die, où on a en fait un centre de nourrissage des vautours. Alors les vautours restent des animaux sauvages qui vivent tout seuls dans la nature, mais aujourd'hui ils peuvent pas le vautour, il faut savoir que c'est un animal qui est charognard, donc il va se nourrir d'animaux qui sont morts et puis qui sont laissés là, il va venir manger les cadavres quoi. Aujourd'hui, l'élevage est organisé de telle manière en France que quand on a un mouton qui est mort, quand on a une chèvre qui est morte, ben, d'un point de vue sanitaire, c'est pas formidable de laisser ça sur le bord du chemin et puis d'attendre que les mouches aient fini de nettoyer la carcasse. Donc en fait, on a organisé, enfin, le parc du Vercors a organisé un système d'écarissage qui va aller récupérer les carcasses sur tous les éleveurs du plateau du Vercors et du Diois et qui va l'amener à ce centre de nourrissage. Et du coup, les vautours, ils disent, bah, super. Il y a régulièrement des carcasses à cet endroit-là. Donc, on va profiter de ça. Et il se trouve qu'il y a un nourrissage qui est l'après-midi, ce qui permet de garantir un peu la présence des vautours. Donc, des fois, on se retrouve avec 100, 150 vautours qui sont présents, qui sont dans le ciel en train de s'affairer parce que Michel Morin, le garde du parc qui s'occupe de ce service d'écarissage, est en train d'amener à manger, quoi. Pour finir sur ta question, la rando à Combo, à l'inverse, par exemple, c'est une rando où on est assez loin, parce que Combo, il faut compter 45 minutes à peu près de voiture pour y aller depuis Die. Donc on va profiter vraiment d'y aller et puis on va y rester. Donc ça devient une rando complètement à la journée, on y passe toute la journée. Et les castors, on essaye de se fier un tout petit peu à leur mode de fonctionnement. Le castor, c'est un animal assez tranquille, mais assez placide. C'est assez gros, c'est pas très vivace comme animal. Du coup, pour se protéger, qu'est-ce qu'il fait ? Il vit essentiellement la nuit ou le soir. Hein, il va pas tellement se balader dans la journée, même si ça peut arriver. Et du coup, pour mieux l'observer, on va plutôt faire une randonnée le soir. Donc ça, c'est des randonnées le soir à la tombée de la nuit même. Hein.
Je posais cette question parce que de chez moi, je vois la nuit, à flanc de falaise du Vercors, des lampes se promener. Est-ce qu'il existe des sentiers à flanc de falaise comme ça ?
Ah, il y a des passages partout, en fait. Hein. Mais après, ce qu'on voit, l'œil humain, en fait, n'est pas très... je dirais pas très doué, ou à des capacités qui sont limitées. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, la falaise du Glandas, là, qui est en face de nous, à Die, on a l'impression que c'est un mur qui est absolument infranchissable. Puis quand on regarde de plus près, en fait, on se rend compte que ce mur, il y a des petites cassures, et qu'à l'intérieur du mur, il y a comme des espèces de petits trottoirs qui sont un petit peu au milieu de la falaise. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des vires, dans notre jargon un peu technique. Et sur ces vires, en fait, c'est comme sur un trottoir. Alors un trottoir qui peut faire 1 mètre de large, ça ne fait pas beaucoup quand il y a 200 mètres de falaise à droite, mais qui peut faire 10 mètres de large aussi. Et l'œil humain, depuis Die, on ne fait pas la différence. Hein, les 1 mètre ou 10 mètres sont vraiment écrasés avec la perspective. Donc là, c'est vraiment des endroits où on peut se balader. Il y a même certaines vires où on peut marcher sans aucune difficulté. Quand on est, par exemple, quand on monte au col du Rousset, il y a un chemin qui part sur la falaise qu'on appelle souvent ici la voie romaine, même si elle n'a pas du tout été construite par les Romains, hein, qui permet d'accéder au col de Chiron. Bah là aussi, on a l'impression que c'est complètement accroché à la falaise et que oh là là, c'est super vertigineux, alors que c'est un chemin où on peut aller en famille depuis le col du Rousset, c'est assez facile, quoi.
Olivier Schlosser, toi, quelles sont tes actions ou tes fonctions dans ces promenades qui seront proposées généralement tous les jeudis hein, du mois de juillet et août, non ?
C'est tout.
Vas-y. Oui, alors effectivement, donc, les randos en montagne sont tous les jeudis, du 14 juillet au 25 août. Donc on en a déjà parlé un petit peu. On les retrouve sur le site aussi accompagnateur-drome-vercors.fr. Mais sinon, on a toutes les sorties nature qui sont, elles, il y en a à peu près une par jour de la semaine et toutes les semaines jusqu'à fin août. Donc moi, mon rôle, ça va être sur ces randos journées de les encadrer. Mais je ne suis pas seul. On est donc trois stagiaires en tout. Et on participe aussi au séjour. Donc quand on est en formation, quand on est stagiaire, on n'a pas les prérogatives pour encadrer un séjour en bivouac. Donc on vient en renfort d'un autre professionnel, soit on reste sur des randos journées.
Des conseils pour des promeneurs pour la nuit, est-ce que c'est conseillé? Et de préférence, combien faut-il être pour aller en promenade comme ça dans la montagne?
Ça dépend. Pardon, ça dépend beaucoup de ce qu'on veut y faire. Si on veut se rencontrer avec un groupe de copains, il faut pas partir tout seul. Par contre, si on veut, la montagne, c'est aussi un espace de convivialité. Il faut pas non plus être dans une logique de dire il faut. D'une montagne austère, quoi. La montagne, voilà, ça peut être un endroit où on se retrouve entre amis, où on va partager le temps d'un bivouac, quelque chose. Mais par contre, si on souhaite observer des animaux qui sont un petit peu farouches, ou même simplement des grands mammifères hein, qui vont un petit peu se cacher, 2, 3, 4, 5 personnes, c'est pas mal. Après, nous, on va rarement accompagner des groupes qui sont beaucoup plus nombreux pour faire de l'observation animalière, parce qu'en fait, dès qu'on est un groupe, on fait beaucoup, beaucoup de bruit, quoi. Parce qu'on a du mal à ne pas discuter les uns avec les autres, et puis que les traces de pas, et puis que celui qui est tout devant, il va voir le chamois qui détale, celui qui est derrière, il dit « Ah, qu'est-ce que c'était ?» Voilà, donc moi, je préfère être devant.
Je parlais par rapport à aussi des personnes qui étaient plutôt une connaissance de la montagne et qui, malgré tout, se sont retrouvées à chuter. C'est pour ça que je voulais savoir quels étaient les dangers de la montagne, la nuit aussi.
Alors, y a une mauvaise blague qui dit que le vide, ça tue pas. C'est le caillou qui est en bas qui tue. Hein. La même chose, la nuit... En soi, c'est pas un problème. Par contre, la nuit, on voit moins le caillou sur lequel on va trébucher. Les dangers de la montagne, c'est des vrais dangers objectifs. C'est-à-dire que on a le risque de se casser, une cheville, de tomber, de se perdre. Mais j'allais dire comme on va la voir en fait en ville. La seule différence, mais qui est une différence assez importante, c'est que si je suis ici, puis que tout d'un coup, en descendant du studio de Radio Diwa, je me foule la cheville dans l'escalier, bon, bah, pas de problème, je vais m'asseoir, il y a quelqu'un qui va appeler, et puis il y a les pompiers qui vont m'amener à l'hôpital, et tout va bien se passer. Quand on est en train de faire le Grand Vémont, et puis qu'il se passe la même chose, c'est-à-dire que je me tords la cheville, c'est pas grave une cheville, mais ça devient plus compliqué. Donc on a toujours ce qu'on appelle nous un environnement spécifique. C'est dans cet environnement-là, le moindre petit souci peut devenir embêtant. Alors après, une cheville foulée en haut du Grand Vémont, c'est pas grave. Une cheville foulée en haut du Grand Vémont alors qu'il y a un orage qui est en train de se préparer, c'est pas bon. Une cheville foulée en haut du Grand Vémont alors qu'il y a une tempête de neige qui arrive, bah du coup, on va avoir... Donc les soucis risquent tout le temps de s'aggraver. Donc là-dessus, ce qui est important, c'est des conseils très bêtes. Hein. Je veux dire, en dehors de quand on y va avec un professionnel, c'est de finalement jamais être complètement tout seul. Alors, on peut randonner tout seul, mais à ce moment-là, il faut évidemment avoir son téléphone, il faut avoir prévenu quelqu'un de l'itinéraire par lequel on va, à peu près, parce que la montagne, c'est aussi un espace de liberté, donc c'est important de dire, bah, en fait, je ne sais pas par où je vais passer. Puis je vais voir en fonction de qu'est-ce que je rencontre sur le terrain. Ça, il faut garder cette richesse-là. Mais il faut pas se retrouver démuni. Hein. On a tous l'habitude maintenant d'avoir notre concentré de technologie dans la poche et de pouvoir appeler n'importe qui. Il faut savoir qu'en montagne, le téléphone, il passe pas partout. Donc si ça passe pas à l'endroit où justement je me suis foulé la cheville, où je peux plus avancer, bah, c'est pas mal d'avoir laissé une indication de son itinéraire à un ami en bas qui va dire, tiens, il est pas rentré, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, et après on fait les choses, quoi.
Alors, tous ces rendez-vous pour l'été, vous pouvez les retrouver sur le site hein, que tu as déjà cité, Olivier, je le rappelle. C'est www.accompagnateur au pluriel -6 drôme -6 vercors.fr. Et puis, il y a aussi un numéro de téléphone pour des réservations pour ces randonnées qui est le 04 75 22 03 03. Toutes ces données, je les mettrai sur la page internet de l'émission. Eh bien, en tout cas, je vous remercie Vincent Haine et Olivier Schlosser d'être venus nous présenter cette saison d'été de Vercors Escapade et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci Yves.
Merci Yves et bel été à toutes et tous.
Ouais, bel été.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Because in a minute they're gonna get wet. And the boys are delighted because all the titties will get them upset. And they all think they're really alright. And they're ready to boot because the sun outside says it's wet t-shirt night. And they all crave some pink delight.
Time again here at the Brasserie, home of the tits. And it's the charming Mary from Canoga Park up next in her bid for the semifinals. Hi Mary, how you doing?
Hi.
Where are you from?
The bus.
Which one?
You know, the last tour. Leather.
Oh, you were the girl that was stuck to seat 38 on Fido 3. Why don't you get in position now and take a deep breath? Because this water is very, very cold, but it's going to be so stimulating. And Mary's the kind of red-blooded American girl who'll do anything. I said anything for $50. That's right.
I really need the $50. You know, I gotta get home.
Yeah, I know. Your father is waiting for you in the tool shed. That's right. You heard right. Our big prize tonight is $50 to the girl with the most exciting mammalian protuberances.
Here I am.
As viewed through a thoroughly soaked, stupid-looking, white sort of male person's conservative kind of middle-of-the-road cotton undergarment, whoopee! And here comes the water! No, you'd squeak more if the water got... Sounds like you just got an ice pick in the forehead. And here comes the ice pick in the forehead!
Million laughs, Mary. Anyway, good golly, what a mess. She's totally soaked.
Totally, I love it.
Yeah, totally committed to the $50. That's it. Just step into the spotlight. Let the guys get a good look at you, honey.
Here I am.
What do you say, fellas? Nice to the jugs? Now, Mary, how's about shaking it around a little?
Ooh,
oh, my goodness, look at her go.
Oh, dancing.
Ain't this what living is really all about? Here's your $50, Mary.
Oh, great. Now I can go home.
Home is where the heart is.
On the bus.